c'est les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
C'est déjà fait chambrer par l'homme de Vierzon, Bruno Poncet, sur son...
Son veston.
Je sais pas quoi, comment, qu'est-ce qu'on peut appeler ça, comment, comment il est habillé.
Un morceau de moquette.
Moi, je dirais plutôt un intérieur de voiture.
Vous pourriez accueillir quand même, d'une façon plus sympathique, Louis Gerbier, quand même.
Moi, dans ma mini, tu vois, bah, au sol, j'ai le même truc que Louis. Genre, t'as découpé un bout de ma mini ou quoi pour faire
ta
fringue?
C'est ça, exactement. Très bonne
vanne. Louis, tu peux parler des baskets de Bruno Poncet?
Non, même pas, tu vois. Moi,
on va mettre ça sur les réseaux sociaux parce que, effectivement, t'as pas vu celle de Louis.
Violette et orange.
C'est improbable. Qui sont jaunes.
On aime la couleur dans les grandes gueules.
Salut, on y va. On s'en fout, pas. Et on embrasse Anaïs qui était en vacances.
Les GG, l'essence flirte de nouveau avec les 2 euros, mais cette fois dans l'indifférence générale. On s'en fout, Charles?
On ne s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Mehdi?
Non, on s'en fout pas. Et j'aime beaucoup ton dans l'indifférence.
Ah ouais.
Différence peut-être pour toi qui est en bécane, mais pas dans l'indifférence.
Ah non.
Bah, en tout cas, il n'y a pas 100 000 gilets jaunes dans les rues, si tu as remarqué.
Parce que malheureusement, on a été anesthésié par les...
Ah puis, ils ont été un peu éborgnés aussi.
Quand tu payes un litre à 2 euros alors que le baril n'a pris aucune hausse depuis presque 7 mois ou 8 mois, ça te prouve une fois encore que tout le monde se gave dessus. Et je le dis, je le répète, ça fait 3 ans et demi ou 4 ans que je suis sur les grandes gueules, je le dis, tant qu'il y aura 62% de taxes sur le carburant, on se continuera à se faire pigeonner comme ça et on sera les dindons de la farce. Mais bon, on ne peut pas changer les choses.
Bruno?
Mais tu sais, même moi je regarde là, j'habite à Paris, voilà, mais même pour la 2 euros, ça devient de plus en plus dur. Là, t'es entre 2, enfin moi c'est du 98, t'es entre 2, enfin 2,10 même. Et c'est ouf, mais comme vient de dire Mehdi,
ça va pas s'arrêter, hein, ça va pas s'arrêter, ça va continuer à augmenter.
Mais là, c'est la taxe le maire en fait. C'est-à-dire que le maire, il dit qu'il faut qu'il trouve 10 milliards, il est en train de les chercher dans nos poches encore une fois. Et là, c'est quand même le truc le plus injuste parce que ceux qui ont besoin de leur chignol pour aller travailler tous les jours et tout, tu te retrouves à mettre des ronds et je plus jamais, enfin. Des fois, t'entends, l'autre fois, je me rappelle, on a eu un débat où vous étiez en train de dire aux gens, pourquoi vous prenez pas votre voiture pour le boulot? Mais t'as des gens, quand ils prennent leur bagnole pour aller au boulot, mais déjà juste ça, ils ont déjà perdu la moitié de leur salaire quasiment.
Mais je vais te dire une chose. Il y a à peu près une dizaine d'années, le PDG Total a dit que le carburant finirait à 2,50€, 2,70€ aux alentours de 2030. Sera bien avant 2030.
Oui, c'est ça, dans 6 ans.
Ça sera bien avant 2030 et on finira à 3€ le litre. Et ça sera invivable, mais malheureusement, encore une fois, quand t'as pratiquement 2/3 qui sont uniquement que des taxes...
Là, ça les caisses de l'État.
Eh bien, à un moment, pose-toi les bonnes questions, dindon. Si t'es un dindon, t'es un dindon.
Monsieur Charles, l'essence coûte cher, mais il faut voir aussi que nous sommes pauvres. J'ai lu un article très intéressant que je recommande à nos auditeurs paru hier dans Le Monde sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis en matière économique.
Très excellent bon papier.
Ouais. C'est de Arnaud Le Parmentier.
Excellent journaliste.
C'est juste spectaculaire. C'est-à-dire que non seulement nous sommes beaucoup moins riches que les Américains, mais le phénomène s'aggrave gravement à tel point qu'on devient pour eux un lieu de vacances ensoleillé où la vie et l'immobilier ne sont pas chers. Et donc on est comme certains pays du Sud le sont pour nos retraités. Voilà, donc une belle performance.
On est le Maroc des Américains.
Des États-Unis. Et franchement, moi je trouve que c'est pas une grande réussite pour nous.
Donc, on enchaîne.
Il serait temps de s'attaquer surtout à ça avant de s'attaquer au coût des choses.
Monsieur Louis.
Hier, sur le plateau de BFM TV, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est venu présenter son plan choc pour lutter contre la criminalité organisée. On l'écoute.
Les grands bandits, le haut du spectre, ils connaissent parfaitement les techniques policières. Ils savent qu'après avoir utilisé un véhicule, on le brûle. On met des gants pour l'ADN. On sait identifier une balise quand elle est posée sous un véhicule. Toutes les techniques policières, ils y connaissent. Bien. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce que ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille chevillée au corps.
Et qu'est-ce que vous allez leur garantir alors de plus?
D'abord, les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites.
Et alors pour cela, il parle d'une création d'un nouveau parquet pour donc lutter contre cette délinquance du haut spectre et l'amélioration du statut de repenti qui sera proposé aux trafiquants de drogue qui collaboreront avec la justice. Alors, on s'en fout pas, Maître Consigny.
On s'en fout pas.
Bruno Poncet.
Je je m'en fous.
Mehdi Kayser.
On s'en fout pas, pas du tout.
Allez, maître Consigny. Non,
je trouve ça intéressant. Il est vrai que le statut de repenti qui existe déjà dans le droit est très compliqué à mettre en œuvre. Il est soumis à des tas de conditions. Il ne lie pas la juridiction de jugement, c'est-à-dire qu'on peut, au stade de l'enquête, se voir octroyer le statut de repenti, la juridiction de jugement derrière en l'état du droit peut le refuser finalement. Donc celui qui a tout balancé pendant l'enquête, il est content quand finalement les juges disent « Ah bah non, en fait, on vous donne pas le statut ». Donc c'est sûr que c'est un statut à améliorer. Après, moi, je trouve ça un peu petit bras de ne proposer que des réductions de peine pour les repentis. Je pense que ça va pas en inciter beaucoup à se repentir, parce que quand vous avez le choix entre vous faire torturer à la perceuse dans une cave du 9-3 ou pas, vous choisissez plutôt pas, sauf si vous avez une vraie raison de balancer vos petits camarades. Donc je trouve ça un peu petit bras. Et par ailleurs, j'observe qu'ils veulent créer, là encore, aggraver la suppression des jurés populaires, soi-disant pour éviter les pressions sur les jurés de la part des trafiquants de drogue, donc faire en sorte que les infractions liées à la drogue, même criminelles, ne passent plus devant des jurys populaires, mais devant des juges professionnels seulement, c'est-à-dire qu'ils continuent leur mouvement de suppression de la cour d'assises. Et ça, je pense que déjà la raison est bidon. Je pense pas que ce soit pour éviter les pressions. Et ensuite, je pense que c'est une régression de juger entre soi. Moi, je suis très pour les jurés populaires.
Mehdi ? Écoutez, déjà, de petit un, je trouve que c'est intelligent de sa part, et c'est aussi intelligent de mettre un avocat à la tête du ministère de la Justice. J'ai toujours été le mec qui voulait mettre, par exemple, un agriculteur à la tête d'un ministère de l'Agriculture.
Didier Giraud.
Ou un diplomate à la tête des AE, ou un policier à la tête du ministère de l'Intérieur.
Bruno Pomar.
C'est magnifique quand tu as un mec du domaine qui gère son ministère. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà, c'est cohérent. Tu vois,
et Bruno Poncet à la tête de la SNCF.
Tu mets pas un énarque à la tête du ministère de l'économie parce qu'il est narque. Enfin, voilà. Bref.
Mehdi Kayser à Bercy.
Ah non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Non, moi je suis bien là où je suis. La politique, non merci. Mais voilà, c'est en fait, le mec sait de quoi il parle. Il faut pas oublier que Dupond-Moretti était considéré comme l'acquittateur. Donc il connaît toutes les ficelles du grand banditisme. Il a défendu les plus grands bandits de France et de Navarre. Donc il connaît tous les systèmes, et que ce système-là qu'il utilise, c'est le système qui a permis d'éradiquer une grande partie de la mafia en Italie dans les années 90-2000. Donc son système a eu des résultats concrets. Aux États-Unis, ils l'ont utilisé il y a une quinzaine d'années, ça a marché très concrètement, ou voire une vingtaine d'années, ça a marché très concrètement. Ça a encore fait ses preuves en Italie. Il veut l'utiliser en France.
Attends.
Tant mieux.
Oui, mais alors là, pardon, mais moi j'adore, parce qu'on nous fait référence à l'Italie, et notamment ce grand chef mafieux qui a tout balancé dans les années 80-90. Et d'ailleurs, il y a un très bon film qui est sorti il y a récemment sur son histoire. Mais pardon, entre lui, est-ce que dit par exemple Sabrina Agresti-Roubache, qui nous dit que ce seront pour les nourrices. Enfin, les nourrices, elles ne feront pas tomber les têtes de réseau à Dubaï. Les nourrices, il faut expliquer ce que c'est. Les nourrices, ce sont ces femmes qui parfois sont obligées de stocker chez elles la drogue et l'argent de la drogue. On nous dit qu'avec ces nourrices, si on leur donne un statut de repenti, on va faire tomber les têtes de réseau. Oui. Pardon, les têtes de réseau en Italie, elles sont tombées quand une tête de réseau a parlé. Parce que la tête de réseau est capable de balancer d'autres têtes de réseau. La nourrice, elle balancera que le petit mec qui est là.
Le N plus 1,
alors, ce que vous comprenez pas, c'est que pour toucher un délinquant, la meilleure chose à faire, c'est de toucher son argent. D'accord? Et que les nourrices, c'est eux, généralement, qui stockent ou la marchandise ou le pognon. D'accord? Un des deux. Donc, si tu touches la poche des délinquants, et c'est pour ça où je le dis, ce que dit Dupond-Moretti est très intelligent, c'est qu'il donne une sorte de gilet pare-balles à ces gens-là pour justement dénoncer. Pour moi, c'est intelligent.
On verra jusqu'où ira le garde des Sceaux s'il arrive à faire passer le nouveau statut de repenti en France.